Vous écoutez RTL.
Bonne journée à l'écoute d'RTL. RTL, il est midi et demi.
RTL midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL midi. Une demi-heure d'infos pure avant de retrouver les auditeurs. On la parole au 32-10. Et c'est Alexandre Benalla, profil bas, qui fait l'actualité en ce mercredi 19 septembre. Il a finalement répondu aux questions des sénateurs. Il n'était pas le garde du corps d'Emmanuel Macron. S'il avait un port d'armes, c'était pour sa sécurité personnelle. Grognon, passif, révolté, c'est avec ces qualificatifs que certains agents de la sécurité sociale étaient fichés à Bourg-en-Bresse par leurs supérieurs. Gros malaise. La PMA pour toutes les femmes, le comité d'éthique rendra son avis mardi prochain sur l'extension de la procréation médicalement assistée. Mais le conseil de l'Ordre des médecins ne s'y opposera pas. L'un de ses représentants sera l'invité d'RTL Midi. Une nouvelle casquette pour les postiers. À l'avenir, ils vont aussi effectuer le recensement de la population pour l'INSEE. Lyon à Manchester en Ligue des Champions. Attention, risque de tempête, titre l'équipe. L'entraîneur de l'OL, lui, tempère. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
C'est toujours l'été et pas seulement dans le calendrier.
Ben exactement, c'est vrai qu'on aura encore cet après-midi un temps estival. Alors déjà, côté ciel, on aura beaucoup de soleil, plus de risques orageux, comme ça a été le cas hier, notamment dans le nord-est, sauf en montagne. C'est vrai qu'il restera un petit risque d'averse sur les Pyrénées ou encore les Alpes, même si pour l'instant le ciel est complètement dégagé. Petit voile nuageux dans le nord-ouest qui devrait s'atténuer cet après-midi. Et avec donc ce soleil omniprésent, les températures resteront estivales. Je me répète depuis des jours et des jours. 21 à 25 degrés au moins près de la Manche, toujours un petit peu plus frais de ce côté-là. Mais 27 à 32 ou 33 degrés encore dans les autres régions.
La question du jour sur RTL.fr, faut-il élargir l'accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules? Vous dites non à 74%, 22% seulement de oui. Vos appels au 3210, vos réactions sur Facebook et Twitter. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour.
Le débat sera sans doute vif.
Effectivement, puisque hier soir, dysfonctionnement sur l'appli RMC Sport pour la soirée Ligue des Champions. Beaucoup n'ont pas pu voir le Paris Saint-Germain et Alain Veil, qui est directeur général d'Altice Europe, qui est la maison mère de SFR et de RMC Sport, sera présent dans ce studio, face aux auditeurs qui pourront l'interroger. Est-ce que ça va marcher ce soir, par exemple? Ça, c'est une question. Et pourquoi ça n'a pas marché hier? Vous pouvez également intervenir sur l'affaire Benalla, au 3210, bien évidemment, et puis peut-être sur la mort de Jean-Pierre.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est venu et il a parlé. Alexandre Benalla, l'ancien chargé de mission de l'Élysée, qui fait l'objet d'une enquête judiciaire pour avoir molesté des manifestants le 1er mai, s'est donc rendu à la convocation de la commission d'enquête du Sénat. Celui qui qualifiait les sénateurs de petits marquis il y a quelques jours encore s'est appliqué à déminer le terrain. Il a répondu durant 2h30 aux questions des élus. Dominique Tenza, vous êtes au Sénat pour RTL. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Et contre toute attente, il a fait profil bas en présentant ses excuses.
Absolument, on était bien loin ce matin du dédain affiché, de l'arrogance exprimée ces derniers jours par Alexandre Benalla. Au contraire, le jeune homme qui s'est présenté face au sénateur est apparu poli et a même exprimé quelques regrets.
Je sais que certains nombre d'entre vous ont été vexés, ont été choqués par les propos qui ont été les miens. Je voulais vous assurer de mon respect total des institutions, du Sénat et des sénateurs.
Les mots sont particulièrement choisis, les excuses minutieusement préparées, tout comme le reste de son audition. D'ailleurs, Benalla n'aura esquivé aucune question, répondant même parfois longuement à des sénateurs qui ne l'auront pas épargné.
Alors, il n'était pas question de revenir sur les faits du 1er mai, ça c'est l'enquête judiciaire qui s'en occupe. Donc, Dominique, tout a tourné autour de la protection du président.
Oui, avec cette question centrale qui a largement occupé les débats, était-il chargé de protéger le président? Non, a répondu l'ex-collaborateur.
Je n'ai jamais été le garde du corps d'Emmanuel Macron. À partir du moment où vous êtes dans une tâche où vous faites l'interface, où vous êtes un facilitateur, où vous avez une proximité physique avec la personne. Mais je n'ai jamais été ni policier, ni garde du corps du président de la République.
Une version qui, aux yeux des sénateurs, reste en contradiction avec toutes les images où l'on voit Alexandre Benalla en compagnie du président. Lui se décrit davantage comme un chef d'orchestre, un metteur en scène, c'est le mot qu'il a utilisé.
D'accord, mais pourquoi était-il armé alors?
C'est la question que lui ont posé les sénateurs. Pourquoi cette arme portée à la ceinture? Il a répondu.
J'ai fait une demande, à titre personnel, d'autorisation de port d'armes pour des motifs de défense et de sécurité personnelle.
Il avait réponse à tout, Alexandre Benalla, durant 2h30, plutôt serein, plein d'assurance. Les contradictions et les zones d'ombre qui persistent ce midi n'auront donc pas semblé gêner l'ancien très proche collaborateur d'Emmanuel Macron.
Dominique Tenza, quant à ses activités actuelles, Alexandre Benalla a répondu Pôle emploi et il a démenti avoir été durant l'été le garde du corps de star de la télé-réalité. Elle était la sœur de souffrance de Simone Veil. L'écrivaine et cinéaste Marceline Loridan-Ivens s'est éteinte à l'âge de 90 ans. Elle avait été déportée elle aussi à Auschwitz-Birkenau et avait passé sa vie ensuite à témoigner de l'enfer des camps et de sa résilience. Elle avait rapporté le secret d'une vie plus intense et plus gaie, a dit Emmanuel Macron. On ne fiche pas ses salariés, ni dans le privé, ni dans le public. Et pourtant, des agents de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bourg-en-Bresse ont fait l'objet de petites annotations peu flatteuses de la part de leur direction. Frédéric Perruche, il s'agit de 35 salariés du service risque professionnel.
Ah oui, bien peu flatteur. En effet, il y a 14 qualificatifs bien peu sympathiques dans ce tableau que la trentaine de salariés de la CPAM a découvert par hasard. Inventaire à la Prévert signé Lydie Moreau de la CGT.
Les passifs grognons, les opposants, encore opposants, ça nous dirait pas trop mal, mais les révoltés, les déchirés, il n'y a pas une définition qui soit positive.
Dans le détail, 8 agents sont classés dans la catégorie hésitant. Il y a 3 déchirés, 2 révoltés, 4 passifs et autant de grognons, inacceptables évidemment et insultants.
Comment on peut nous traiter de la sorte? Comment on peut mettre nos noms dans des cases qui est ces dénominatifs-là? Grognons, mais même en maternelle, on n'utilise pas ces termes-là. Ce jour, on a connaissance de 2 arrêts de travail. Une des personnes, en tout cas, était en pleurs, ne plus pouvoir s'arrêter parce qu'elle ne pensait pas qu'on pensait ça d'elle. Et puis, c'est exposé à tout le monde. On est tous comparés les uns aux autres.
Le document est officiel, très détaillé. La direction de la Caisse de Bourg-en-Bresse s'est excusée, mais c'est loin d'être suffisant pour le personnel qui manifestera demain en fin de matinée.
Un homme complètement nu a agressé des passants et blessé 4 policiers hier près de la gare RER de Cergy-Préfecture. Au moment de son interpellation, il a même mordu jusqu'au sang un policier. Un autre fonctionnaire a été blessé à la main. L'homme est en garde à vue. La procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, le Conseil de l'Ordre des médecins ne s'y opposera pas. On en parle dans un instant.
RTL Midi avec Christelle Robière.
Et à l'instant, la première réaction d'Alexandre Benalla que RTL vient de joindre. J'ai dit toute la vérité, je suis soulagée. J'attends maintenant avec impatience de passer devant le juge la semaine prochaine. Fin de citation. Les 1001 métiers des facteurs. La Poste qui distribue de moins en moins de courriers s'occupe déjà des personnes âgées, fait passer le code de la route. Mais les facteurs vont avoir désormais aussi une nouvelle casquette. RTL vous le révélait ce matin, ils vont s'occuper aussi du recensement de la population, Christophe Panzio.
Exactement. L'idée, c'est que votre facteur frappe directement à votre porte pour vous remettre les questionnaires de recensement. Cela permettrait d'abord de simplifier la vie des communes qui sont aujourd'hui obligées de recruter elles-mêmes quelques 24 000 personnels assermentés chaque année. Ensuite, 3 recenseurs sur 4 ne reviennent pas d'une enquête sur l'autre. Les villes peinent à les recruter. Le recours aux facteurs permettrait donc d'y remédier. Les coûts de formation à répétition seraient aussi limités. Et puis, en effet, le métier des 73 000 facteurs seraient encore un peu plus diversifiés alors que le nombre de lettres envoyées continue de s'effondrer. Pour l'heure, l'expérimentation ne concernera que les campagnes de recensement de la population 2020 et 2021. Entre 12 et 24 communes volontaires seront sélectionnées par l'INSEE. Un appel d'offres sera lancé pour permettre à d'autres entreprises prestataires de concurrencer si elles le souhaitent la Poste. Et un bilan de ces tests sera effectué fin 2021 pour savoir si le dispositif est généralisé ou abandonné.
Les explications de Christophe Ponzio, merci. Bonjour, vous êtes à Ouarzazate. Quand vous appelez une grande entreprise, le téléconseiller ne dit jamais où il se trouve et pour cause, en général, il est bien loin de vous et parfois aussi de vos préoccupations car les call centers ont été largement délocalisés à l'étranger. Eh bien, aujourd'hui, un député de la majorité voudrait imposer la transparence sur leur localisation. Il s'appelle Ludovic Mendès, il est député La République En Marche de Moselle et c'est notre invité. Bonjour.
Bonjour.
Alors, dans le cadre de la loi Pacte sur les entreprises, vous souhaitez donc obliger ces centres d'appel à informer les clients sur la localisation de ces téléconseillers. Pour quelles raisons ?
Je pense que c'est surtout une transparence vis-à-vis du consommateur et un gain de crédibilité pour les entreprises. On voit que, par exemple, Enedis fait sa publicité en disant que ses téléconseillers sont installés en France aujourd'hui.
Et de quelle manière donc vous souhaitez mettre en place cette localisation obligatoire ?
Tout simplement, quand on appelle notre relation clientèle de nos fournisseurs d'accès Internet ou d'électricité ou de gaz, avant de décrocher, on nous dit bonjour, vous allez être pris en charge par le centre d'appel de Bordeaux ou le centre d'appel de Ouarzazate, comme vous l'avez dit tout à l'heure.
Mm-hmm. Mais Ludovic Mendès, ce qui nous importe quand on appelle ces centres, c'est de pouvoir résoudre rapidement notre problème. Finalement, nous, savoir où notre appel atterrit, est-ce que ça peut vraiment avoir une influence sur notre comportement en tant que consommateur? Quel est notre intérêt à nous?
Il y a un intérêt qui est non seulement personnel quand on appelle quelqu'un, on a besoin d'être compris sur la problématique que nous avons avec notre appareil ou avec le secteur dans lequel nous sommes installés. Ou, par exemple, dans mon département, il y a certaines communes qui sont très compliquées en termes de nom et c'est très difficile de les faire comprendre par des personnes qui sont à l'étranger. Mmh. Et au-delà de ça, c'est aussi la bataille pour l'emploi local. Oui. C'est de faire en sorte d'accompagner ces entreprises pour recréer une dynamique. Il ne faut pas oublier que les centres d'appel, aujourd'hui, c'est environ 264 000 personnes. Mmh. C'est 1% de la population active et ce sont 2 femmes sur 3. Ce sont des personnes qui sont très peu qualifiés et des personnes qu'on a besoin d'accompagner. Quand on écoute le discours du président de la République la semaine dernière, sur le plan pauvreté, de se battre pour l'emploi de 300 000 personnes, ça en fait partie. Par exemple, les Italiens ont mis en place un protocole d'accord en disant on ne délocalise pas plus de 20% de nos centres d'appel. Ils ont recréé 80 000 emplois. Mmh. Et aujourd'hui, 80 000 emplois sur le territoire national, je pense que personne ne peut les refuser. Mmh. Et au-delà de ça, c'est d'accompagner la bataille pour l'emploi des territoires, c'est le bénéfice des salariés les plus fragiles. Et je ne peux pas aujourd'hui, moi, ni nous tous, nous pouvons accepter d'un point de vue politique de laisser ça aux populistes qui toujours sont en train de nous montrer du doigt parce qu'on ne prend pas en considération des personnes en difficulté. Et c'est un engagement que j'avais pris auprès de l'intersyndicale d'Engie, qui est une entreprise à capitaux publics et qui aujourd'hui est en difficulté. Qui a beaucoup délocalisé. Ouais. J'ai un centre d'appel, moi, sur ma circonscription, un centre d'appel où j'ai moi-même travaillé, d'ailleurs, où j'ai fait mon apprentissage, ouais, que je connais très bien. Et il paraît normal de protéger ces emplois et d'accompagner ces personnes. Il ne faut pas oublier qu'on peut aussi y intégrer des personnes en insertion sociale et économique, des personnes en situation de handicap. C'est des emplois qui sont plutôt simple à mettre en place, même s'il y a un turnover important. Je pense qu'on peut appeler tous ensemble les entreprises, le patronat et le MEDEF, dire on se met autour de la table et on propose une charte patriotique pour protéger nos emplois et en créer de nouveaux.
Est-ce qu'il faudrait garantir un seuil maximum de délocalisation des services clientèle?
Moi, j'espère qu'on puisse garder au moins 80% des centres d'appel sur notre territoire. Mmh. Donc, si on peut accepter 20% des localisations. Il faut aussi faire la différence entre ce que c'est qu'un centre d'appel entrant de relation clientèle et un centre d'appel sortant qui est plutôt de la relation commerciale. On va vendre des services. Ce n'est pas la même chose. Mmh. Aujourd'hui, quand on appelle, par exemple, je parlais d'Engie tout à l'heure, une entreprise qui a capitaux publics et qu'en plus, on arrive à l'étranger, c'est un peu compliqué.
Merci Ludovic Mendès d'avoir été l'invité d'RTL Midi.
Merci à vous.
Merci, bonne journée. On fait une nouvelle pause et on revient sur la procréation médicalement assistée dans un instant.
RTL Midi avec Christelle Robière.
Un enfant pour toutes les femmes, si elles le souhaitent, quelle que soit leur situation familiale. Le Comité consultatif national d'éthique rendra mardi prochain son avis sur l'extension de la PMA, la procréation médicalement assistée, aux couples de femmes ou aux femmes seules. Emmanuel Macron en avait fait une promesse de campagne et il reçoit un soutien important, celui de l'Ordre des médecins, qui sera entendu tout à l'heure à l'Assemblée. Avec nous, l'un de ses représentants, Jean-Marie Farrugia, président de la section éthique et déontologie du Conseil national de l'Ordre des médecins. Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Pour que les choses soient bien claires, vous ne voyez donc aucun obstacle à l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, c'est ça ?
Eh bien écoutez madame, c'est un sujet qui nous préoccupe déjà depuis de nombreuses années et nous avons finalement posé ce que l'on estimait être juste et dans le cadre de nos compétences. Mmh. Il est incontestable que c'est un sujet difficile et qui a motivé pour nous énormément d'énergie. Et en tout cas, depuis de nombreuses années, nous avons procédé à des auditions de scientifiques, de responsables politiques, associatifs, d'institutions diverses, parce qu'on ne voulait pas enfermer l'institution qui représente l'ensemble des médecins dans une réflexion un petit peu étriquée,
oui,
et en refusant de prendre en compte les évolutions de la science et surtout des désirs de la société.
Mmh. Alors quel est votre argument, justement?
Alors, il est incontestable qu'il y a une demande sociétale,
oui,
et que la réponse ne peut être que médicale.
Mmh.
Nous essayons d'y répondre en étudiant d'abord les principes éthiques principaux, et on s'est posé les questions de savoir, vous savez que les principes sont quatre, c'est l'autonomie de la personne, la bienfaisance, l'absence de malfaisance et la justice. Et lorsque nous nous sommes posé ces questions à propos de cette AMP, eh bien l'autonomie de la personne, on pense en tout cas qu'elle doit être respectée, de même que celle du médecin, c'est-à-dire que à la demande d'une personne, l'ordre, le médecin oui. a le droit de dire oui ou de dire non.
Pour vous, c'est le désir d'enfant qui prime ?
Eh bien, le désir d'enfant, oui, parce que, vous savez, il y a eu beaucoup, évidemment, de théories. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? L'ordre des médecins ne se sent pas en capacité, en tout cas, de répondre à cette question, qui est une question essentiellement sociétale.
Mais, ce que je trouve étrange, c'est que vous dites « on ne s'y opposera pas ». Pourquoi vous ne dites pas clairement « nous y sommes favorables » ?
Ah ben nous y sommes favorables, mais nous laisserons évidemment à la personne le soin de choisir ce qu'elle veut, et au médecin la façon de répondre.
Mmh. Et à ceux qui vous disent que vous allez instaurer un droit à l'enfant, ça, ce sont les anti-PMA. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Le droit à l'enfant, franchement, ça n'est pas une question qu'il faut poser à l'ordre. Mmh. C'est une question de société. Je vois pas de quel droit un médecin dirait à une patiente, madame, vous n'avez pas droit à un enfant, ou madame, vous avez droit à un enfant. C'est une question qui est personnelle, qui est sociétale, mais la réponse n'appartient pas au médecin.
Merci beaucoup, merci Jean-Marie Farrugia d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Bonne journée. Jamais 203, Lyon espère faire mentir l'adage ce soir pour son entrée en Ligue des Champions après l'échec du PSG de Monaco hier. Lyon à Manchester chez les hommes de Guardiola, alors que l'OL est plus que décevant en championnat. Mais Bruno Genesio, l'entraîneur fragilisé, ne dépose pas les armes.
Il faut évacuer ce qu'on vient de vivre. De toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. C'est une autre compétition, c'est un autre contexte. Et je pense que c'est aussi dans ces moments-là qu'on voit les hommes, qu'on voit les grands joueurs. Et voilà, on sera là pour jouer notre jeu aussi, pour ne pas avoir de regrets. Personne à part nous pense qu'on peut réaliser un résultat positif ici. Mais dans le football, tout est toujours possible. C'est ce qui fait son charme. Après, on sait qu'on affronte une équipe très très forte. On sait que c'est une équipe qui est capable de marquer des buts, qui a beaucoup de variété dans son jeu. Donc, à nous de leur poser des problèmes. Et puis ensuite, on verra ce qu'il advient. Mais on est habitué à vivre ce genre de situation, à vivre cette pression-là. Et c'est aussi ce qui nous anime et ce qui nous permet d'avancer et de progresser.
Bruno Genesio avec Willy Maisonas, match à vivre sur RTL entre 20h45 et 23h, garanti sans bug à la radio. Et pour revenir sur les difficultés de retransmission d'RMC Sport hier soir, Alain Veil, le PDG de Next Radio et d'SFR, sera l'invité de Pascal Pro tout à l'heure après 13h pour dialoguer avec vous au 32-10. Les hommages affluent pour saluer l'élégance et le talent d'un grand acteur. Jean Pia est mort hier à quelques jours de ses 94 ans. Le grand public se souvient des Rois Maudits, mais c'était surtout un grand acteur de théâtre qui avait notamment campé Cyrano, et il avait toujours beaucoup d'humour, en particulier sur la vieillesse. Écoutez, c'était en 2013 aux Grosses Têtes.
Il y a une histoire très connue là-dessus. Là, c'est l'amour en MMS. C'est une façon de faire l'amour en MMS. À 20 ans, matin, midi et soir. Ouais. À 50 ans, mardi, mercredi, samedi. À 80 ans, mars, mai, septembre. Et au-delà de 80, mai, meilleur souvenir.
L'humour de Jean-Pierre Grosse-Tête sur RTL. L'histoire du jour qui l'aurait certainement amusé d'ailleurs, le matin, le midi et le soir, quand quatre femmes, Jean-Alphonse Richard, se vengent d'un serial lover.
Expédition punitive qui s'est effectivement déroulée dans l'appartement de notre Roméo à Satonnet, près de Lyon. Scène d'hystérie dans ce deux pièces. En quelques minutes, les quatre furies dévastent tout, balancent par la fenêtre habits, coussins, téléphones, ustensiles de cuisine et reprennent les cadeaux qu'elles avaient faits au temps du grand amour, sans oublier de distribuer avant de partir quelques bonnes paires de gifles à monsieur. Quelques jours auparavant, les quatre femmes ne se connaissaient absolument pas. Elles avaient rencontré ce playboy local en boîte de nuit et sur un site de rencontre. Et c'est par hasard, sur Internet, sur les réseaux sociaux, qu'elles se sont aperçues qu'elles partageaient le même amant qui avait juré à chacune d'entre elles qu'elle était la femme de sa vie. Trompées, abusées, vexées, les quatre maîtresses ont donc décidé de se venger, ce qui les a soulagées, certes, mais les a conduites au tribunal où on ne badine pas avec l'amour. 4 mois de prison avec sursis et 2000 euros de dédommagement.
Merci Jean-Alphonse Richard. Et on retrouve Pascal Praud avec qui vous allez dialoguer au 32-10 dans quelques minutes. Alors Pascal, qu'est-ce qui vous intéresse?
Vous voulez vraiment que je vous dise ce que j'ai retenu du journal?
La blague de Jean-Pierre.
Mais évidemment, je viens de l'entendre à l'instant. Je ne peux pas vous dire autre chose si je suis l'amour.
Je
ne
vais pas vous demander si vous êtes matin, non, midi ou le soir.
Non, il ne faut jamais parler de sa vie privée, publiquement en tout cas. Ça, c'est une erreur. Jamais. Mais MMS, regardez, je l'ai noté et je pense que je vais la ressortir rapidement parce que c'est rigolo. Et Jean-Pierre, bah oui, forcément, Jean-Pierre, je pense que les auditeurs pourront réagir. C'est le baron écarlate dans Les Rois Maudits. C'est également Debois d'Anguin dans Le Fil à la Patte avec Robert Hirsch lorsque Robert Hirsch jouait Bouzin. Et puis on parlera bien sûr avec Alain Veil qui va arriver dans ce studio, qui est directeur général d'Altice Europe, qui est la maison mère d'SFR et de RMC Sport. On parlera des dysfonctionnements hier soir de l'appli RMC Sport, puisque ça a été écran noir, pas pour tout le monde, mais pour certains. Donc pourquoi, comment, est-ce qu'on est sûr que ce soir ça va marcher? J'imagine que les auditeurs sont en colère, mais enfin Alain Veil, il a le courage de venir dans notre studio, c'est en plus une maison concurrente, donc il va pouvoir parler avec les auditeurs, c'est une bonne chose.
À tout à l'heure, 13h05.
À tout de suite.
La météo, Louis Baudin, toujours aussi chaude.
Exactement, avec des températures encore très élevées. On sera entre 21 et 25 degrés près de la Manche, 27 à 32 ou 33 degrés dans les autres régions. On aura 27 à Paris, par exemple, 29 du côté de Nancy, 30 degrés à Strasbourg. On dépassera les 30 degrés en région toulousaine ou encore du côté de Bordeaux et plus de 30 degrés également près de la Méditerranée. Tout ça avec beaucoup de soleil. Fini le risque orageux en plaine, en tout cas, parce qu'il y aura un petit risque quand même sur les Pyrénées, les Alpes, le Jura ou encore les Vosges, mais seulement en montagne. Ailleurs donc du soleil. Puis un petit voile nuageux que je vois dans les régions du nord-ouest, mais sans grande conséquence. Il devrait même s'atténuer au fil des heures, donc pour laisser ce soleil s'imposer très très largement.
Bon, et on profite de ce temps assez parfait encore demain.
Oui, demain, ça sera toujours aussi chaud. Hein. Les températures, dès le matin, seront souvent au-delà de 15 degrés, entre 15 et 20 degrés. Et puis l'après-midi, toujours ces températures, alors largement de saison, près de la Manche, entre 20 et 25 degrés. Puis ailleurs, je vais encore me répéter, on sera entre 27 et 32 ou 33 degrés. 33 degrés demain après-midi à Lyon, 27 à Paris, plus de 30 degrés à Bordeaux, à Toulouse ou encore du côté de Marseille. Tout ça avec beaucoup de soleil, avec quand même un petit bémol dans le nord-ouest. On aura probablement un peu plus de nuages sur la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, notamment le matin.
Le changement arrive.
Oui, le changement arrive. Mais l'après-midi, le soleil résistera encore. Il y aura un peu plus de nuages en Bretagne, puis toujours ce petit risque d'averse sur les Alpes et la Corse. Mais encore une très très belle journée. Attention, ça changera radicalement quand même à partir de vendredi et pour la fin de semaine.
On en reparle. Merci Louis. Dans un instant, le rappel des titres avec Quentin Vinet. RTL, il est 13h.
Le tout info, des auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec vous Quentin Vinet, bonjour.
Et bonjour à tous, j'ai dit toute la vérité et je suis soulagé. C'est la première réaction d'Alexandre Benalla que vient de joindre RTL. L'ex-collaborateur de l'Élysée se dit impatient de passer devant la juge la semaine prochaine. Ce matin, il a passé plus de 2h30 devant la commission d'enquête du Sénat pour expliquer qu'il n'était pas le garde du corps d'Emmanuel Macron et qu'il portait une arme, mais uniquement à titre personnel.
Moi j'avais une tâche d'organisation générale, de sécurité générale, mais je n'étais pas le garde du corps d'Emmanuel Macron. Et je ne l'ai jamais été. J'ai fait une demande à titre personnel d'autorisation de port d'armes pour des motifs de défense et de sécurité personnelle. Parce que quand vous êtes dans des fonctions à la présidence de la République ou pendant la campagne présidentielle, vous êtes exposé vous-même. Il peut vous arriver quelque chose. Donc j'ai fait une demande pour ma sécurité personnelle.
Voilà pour les explications d'Alexandre Benalla devant des parlementaires, des sénateurs qui se sentent baladés.
Monsieur Benalla a bien préparé son audition, c'est évident. Mais plein de questions restent sans réponse. Sur le permis de port d'armes qu'il a obtenu dans des conditions qui restent assez fumeuses quand même, sur la carrière fulgurante qu'il a eue au sein de la gendarmerie avec cette promotion au grade de lieutenant-colonel, M. Benalla a quand même bénéficié d'un statut assez privilégié dans la galaxie macronienne.
En fait, on est sur les éléments de langage qui restent invraisemblables. Ce qui est très gênant, c'est qu'on se sente baladé, qu'on puisse nous asséner des contre-vérités qui sont contredites par les faits, comme ça, sous serment.
Je crois que M. Benalla faisait de la sécurité rapprochée sans vraiment le savoir.
On nous a menti. Et manifestement, même si M. Benalla a bien été préparé, il y a des contradictions, il y a, je crois, on va dire, des mensonges.
Au micro d'Olivier Bost pour RTL, dans la foulée, c'est Vincent Crasse qui a été entendu en public et non à huis clos comme il le demandait. Vincent Crasse, c'est le salarié de La République En Marche qui était avec Alexandre Benalla le 1er mai dernier. Emmanuel Macron sera cet après-midi aux Invalides à Paris. Le président va assister à la cérémonie annuelle d'hommage aux victimes du terrorisme. Il doit annoncer la création d'un musée mémorial et une amélioration de la prise en charge des victimes. Des regroupements de médecins au sein d'une même structure, d'une communauté, c'est ce que propose le gouvernement dans son vaste plan à 3,4 milliards d'euros annoncé hier. Précision ce matin sur RTL de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn.
Le cahier des charges, c'est que chaque Français est un médecin traitant. C'est que ces communautés s'engagent à des horaires d'ouverture des cabinets pour des rendez-vous non programmés, de façon à ce qu'on puisse à tout moment, entre 8h et 20h et le samedi, accéder à un médecin. Le président de la République a évoqué qu'on puisse élargir ces plages horaires jusqu'à 22h. Nous le négocierons. Et donc, l'idée, c'est bien un cahier des charges, un financement d'une communauté de professionnels qui prennent en responsabilité un territoire ou une population.
La Ligue des champions de foot, ça continue aujourd'hui. Lyon sur le terrain de Manchester City, ce sera ce soir. Les Lyonnais vont tenter de faire mieux que Paris et Monaco qui ont tous les deux perdu hier soir. Une soirée perturbée par des soucis techniques sur les nouvelles chaînes d'Altice SFR. Le groupe présente d'ailleurs ses excuses. Des nouvelles de la Bourse de Paris, on fait le point comme tous les jours à la mi-journée avec vous, Rémi Le Bailly d'Investir les Échos. La Bourse est dans le vert.
Et oui Quentin, c'est en fait un peu la même situation qu'hier avec un CAC 40 qui progresse légèrement. Le gain est actuellement de 0,25% à 5377 points. Clairement, les marchés ont en ce moment envie de voir le verre à moitié plein dans la guerre commerciale américano-chinoise. Oui, Donald Trump a annoncé en début de semaine des taxes supplémentaires de 10% sur 200 milliards d'importations chinoises. Elles seront mises en place dès le 24 septembre. Oui, les Chinois ont répliqué, mais on arrive donc au mais. Cette réplique est mesurée avec des taux de 5 à 10% seulement sur 60 milliards de produits américains importés. Et pour les investisseurs, cela veut dire que les Chinois sont toujours prêts à discuter. D'ailleurs, les marchés asiatiques ont monté cette nuit, plus 1,1% par exemple pour l'indice chinois Shanghai Composite. Et dans la foulée, les places européennes se tiennent bien également, et donc Paris. Parmi les valeurs, le secteur automobile qui avait, c'est vrai, beaucoup souffert ces derniers temps, progresse assez nettement, avec en tête de liste l'équipementier Valeo qui gagne 2,8%. Et Peugeot et Renault se tiennent très bien également, puisque les deux titres s'octroient 1,9%.
C'était Rémi Le Bailly à la Bourse de Paris. Il est 13h04 sur RTL. C'est l'heure des auditeurs ont la parole. Pascal Praud vous attend au 3210.
Vous écoutez RTL.